au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 17 septembre, bienvenue dans Lanaudière PM. 23 beaux degrés actuellement au cœur de Lanaudière. On croirait que l'été n'est pas près de terminer. Puis on en prendra encore une couple de semaines comme ça. L'émission aujourd'hui, Pierre Paquette, avec qui sera question de la gauche là, qui s'enfonce dans un gouffre. On aura l'occasion également de parler avec Noémie Turbide. Elle est coordonnatrice chez Action Logement Lanaudière. On va parler de la crise du logement. Michel Arnois sera avec nous. Il s'est rendu cet après-midi du côté de Sainte-Mélanie. On va justement parler des déboires à l'hôtel de ville de Sainte-Mélanie. Également Simon Brault et Louise Sicourou. Ils sont créateurs des Journées de la culture, mais tout d'abord, il y a plusieurs sondages qui ont été publiés hier et également ce matin qui tracent un portrait intéressant de l'humeur politique des Québécois. Là, François Morin a eu l'occasion de s'entretenir avec notre analyste politique Mathieu Bélanger d'entrée de jeu. Ben, il est question du sondage sur la laïcité, un sujet cher au gouvernement Legault.
Lorsque la CAQ a sorti la carte de la laïcité, où les enjeux plus nationalistes s'est souvent aidé à monter dans les intentions de vote et dans les votes aux dernières élections. Cette fois-ci, donc, un sondage de Léger qui nous donne les préférences des Québécois sur un certain nombre d'énoncés. Là, il y en a une dizaine à peu près. En lien avec la laïcité, puis qu'on voit que de façon générale, une majorité, puis une majorité là importante, là, souvent autour du deux tiers des Québécois, là, selon l'énoncé, appuie la laïcité. Le résume à son plus simple comme ça. Par contre, en même temps, il y a un autre sondage sur les intentions de vote au Québec. En même temps, toujours par la firme Léger, et ben on a les mêmes chiffres là à peu près que dans les derniers sondages. Depuis un certain temps, donc avec le PQ très loin en avance, la CAQ plus bas, en troisième place. Ici, là, la CAQ, dans ce sondage-là, est à 16%, donc mieux que dans le Palace Data. La méthodologie peut expliquer là, la petite différence là, entre les deux sondages, mais le portrait d'ensemble est le même. La CAQ est en grande difficulté. La CAQ aurait, si c'était le résultat des élections, ben aurait entre 0 et quelques députés. Donc, pour l'instant, l'enjeu de la laïcité ne semble pas avoir un impact sur les intentions de vote. Cela dit, faudra voir justement si des mesures sont mises en place, des projets de loi sont effectivement déposés et l'application de ces projets de loi-là, est-ce que là, ça pourrait avoir un impact? Qui sait? Mais on voit que c'est chemin des dernières cartes du jeu de François Legault.
Il y a également des Québécoises et des Québécois qui ont été sondés relativement aux effets du remaniement ministériel de François Legault et dans l'opinion publique, ça n'a pas changé grand-chose.
Petite nuance, le sondage ne mesure pas ici l'effet sur l'électorat, mais c'est l'effet que l'électorat pense qu'il aura. C'est une petite nuance, mais qui a quand même une certaine signification. Donc, dans le sondage, la question était, croyez-vous que le remaniement ministériel donnera un nouvel élan au gouvernement de François Legault? Et donc, non pas l'opinion de la personne elle-même sur ce remaniement-là. Quelqu'un pourrait dire, ben moi, je suis très satisfait par ça, mais je pense que je suis le seul dans mon camp et que tout le monde est insatisfait. Et donc, tout le monde pourrait penser ça à la limite. Et là, on aurait un résultat catastrophique, mais dans la vraie vie, un effet positif. Donc ici, 69% des gens disent « Non, je ne pense pas que ça va donner un nouvel élan ». Ça montre quand même que les gens ont l'impression que les gens, on est toujours à ce niveau-là, donc que les gens ont l'impression que les gens n'ont plus d'écoute envers le gouvernement de François Legault, ou en tout cas, qu'un remaniement n'est pas quelque chose qui va modifier les choses. Cela dit, malgré les nuances que je viens d'évoquer, ben quand on voit le sondage lui-même sur les intentions de vote, ben pour l'instant, le remaniement ne semble pas avoir eu d'effet, ou en tout cas pas d'effet significatif. Et ça montre justement que la côte là, demeure très dure à monter pour François Legault et son parti. Je mentionnais que dans ce sondage-ci, la CAQ est un petit peu plus favorable. Le sondage est un peu plus favorable à la CAQ que dans le dernier Palace Data, là, c'est un léger marketing. Mais si on compare justement léger avec léger pour prendre les mêmes méthodologies, ben on a le même résultat à toute fin pratique. Il n'y a pas de mouvement là, significatif dans les intentions de vote depuis le dernier léger du mois d'août dernier. Donc, pour l'instant, pas de changement avec les annonces du gouvernement, avec le remaniement ministériel, avec l'enjeu de la laïcité. Je le dis, je le répète et je le répéterai. Il reste à peu près un an avant les prochaines élections. Des choses peuvent arriver, mais il y a une tendance lourde présentement qui est difficile, pas impossible, mais difficile à modifier.
Et il y a une autre tendance qui se dessine également dans les sondages. Je ne sais pas nécessairement en faveur du Parti québécois. Si le Parti québécois gagne en popularité, son option est loin de gagner du terrain.
Non, ça, on demeure dans les mêmes eaux où une majorité de Québécois ne veulent pas l'indépendance du Québec, puis une majorité aussi ne veulent pas de référendum sur la souveraineté du Québec. Et ici, en gardant une nuance importante, par contre, quelqu'un pourrait dire, je suis pour, puis on sait qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, je suis pour l'indépendance du Québec. Je crois qu'un référendum présentement serait perdant, et donc je ne pense que c'est pas que c'est le bon moment. C'est ce qui explique que on a chiffre à peu près le deux tiers des Québécois qui sont plutôt ou très défavorables envers la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec dans un premier mandat du PQ. Il y a une partie des gens là-dedans qui appuient l'indépendance, mais qui pensent que ça serait pas stratégique ou que ça serait un référendum perdant. Et donc, des gens qui, si les intentions de vote envers la souveraineté augmentaient, ben pourraient décider, OK, oui, c'est le bon moment d'avoir un référendum. Donc, il y a vraiment une distinction importante, une séparation, une coupure même importante entre l'appui envers le Parti québécois, d'une part, comme parti pour remplacer le gouvernement de François Legault et de la coalition Avenir Québec, et d'autre part, donc, l'appui envers la souveraineté et la logique d'avoir un référendum dans un premier mandat. Les gens se disent, je peux voter, pour l'instant du moins, je peux voter pour le Parti québécois et éventuellement voter non référendum, voire... ça serait intéressant éventuellement d'avoir des sondages là-dessus, je n'ai pas vu récemment. Est-ce que les gens croient que vraiment Paul Saint-Pierre Plamondon ferait un référendum se remporte un gouvernement majoritaire? Ça se peut que des gens se disent présentement, ben de toute façon, il va changer d'idée d'ici là, et donc je peux voter pour le Parti québécois en toute confiance. C'est le genre de choses qu'on va... Plus on va s'approcher de la campagne, plus, si c'est le cas que Paul Saint-Pierre Plamondon maintient son discours, ben probablement qu'on va avoir des sondeurs qui vont questionner ça. Est-ce que vous le croyez là-dessus? Et ça aussi, ça nous permet de mieux comprendre le vote péquiste.
Bon, c'est François Morin qui s'entretenait avec notre analyste politique Mathieu Bélanger. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur ces sondages avec Pierre Paquette un peu plus tard au cours de l'émission où il sera question de la gauche là, qui s'enfonce dans un gouffre sans fond. Dans un tout petit moment, on aura l'occasion de parler avec Simon Brault et Louise Sicourou. Ils sont créateurs des Journées de la culture là, qui s'en viennent.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Présenté par les Habitations bord de l'eau, le Salon 50 plus de Lanaudière est de retour les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Découvrez plus de 70 exposants de produits et services pour répondre aux besoins des 50 ans et plus. Au menu, plusieurs conférences. Chantal Lacroix, présentée par Club Voyage Albatros. Le Pharmachien, présenté par Pharmaprix des Galeries Joliette. Marie-Josée Taillefer, présentée par le Réseau des Cliniques Club. Et Sébastien Buisson, des Habitations bord de l'eau. Les nouveautés cette année, dégustation de repas prêts à manger convives, des conseils pour la vente de votre propriété, des ateliers de création, des robots. Tentez votre chance pour le moitié-moitié et bien plus. Plusieurs tirages de prix de présence pour les visiteurs. Le Salon 50 plus de Lanaudière, les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Une invitation de FADOC, Région Lanaudière.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Pendant la liquidation totale, prenez le volant d'un Kicks Play S 2025 en location 60 mois à partir de seulement 76$ plus taxes par semaine, sans aucun comptant initial. Chez Joliette Nissan.
Du 19 au 21 septembre, c'est la vente de relocalisation du Jean Coutu de Rawdon. Venez découvrir la toute nouvelle succursale au 3432 rue Metcalfe. Pour l'occasion, profitez d'offres spéciales. Circulaires exclusives avec encore plus d'économies, cadeaux avec achat et événements beauté avec des marques de renom telles que Wattier, Caudalie, Clarins et plusieurs autres. Obtenez également 20 fois les points mois à l'achat de 100$ ou plus sur presque tout et soyez parmi les 100 premiers clients le vendredi 19 septembre pour recevoir gratuitement une carte cadeau de 10$. La vente de relocalisation du Jean Coutu à Rawdon, un événement à ne pas manquer.
Rendez-vous à Sainte-Marceline-de-Kildare les 20 et 21 septembre 2025 de 10h à 17h pour la 25e édition du Festival des artisans. Plus de 175 artisans locaux, plusieurs métiers d'art et produits agroalimentaires, des animations pour petits et grands, spectacles, ateliers et bien plus. Rendez-vous dans tout le noyau villageois. Consultez la page Facebook Festival des artisans de Sainte-Marceline-de-Kildare pour plus de détails. Le Festival des artisans, ça se vit ici, ça se partage. Ne le manquez pas.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Repentigny, Saint-Côme, Saint-Jean-de-Matin, la visitation de l'île du Pape.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Chez nous, on s'en laisse pas imposer. La musique américaine, on n'en joue plus. La Naudière PM, culturelle.
Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre vont se tenir les Journées de la culture. C'est la 29e édition cette année. C'est plus de 2000 activités culturelles à travers tout le Québec là, auxquelles sont conviés les Québécoises et Québécois. Mais saviez-vous que les Journées de la culture ont été créées par deux Lanaudois? Et Michel Arnois a eu l'occasion de s'entretenir un peu plus tôt aujourd'hui là, avec les deux créateurs, soit Simon Bro, le président du Festival de Lanaudière, et Louise Sirouco, qui est vice-présidente du Musée d'art de Joliette et conseillère municipale à Saint-Jean-de-Matha.
Vous êtes les deux fondateurs des Journées de la culture. Je vais m'adresser à vous tout d'abord. C'est quand même pas rien, deux Lanaudois, et on est rendu à plus de 2000 activités à travers tout le Québec. Pas rien.
C'est pas rien, puis c'est plusieurs partout dans les régions depuis le tout début. Hein. Souvent, on pense que c'est à Montréal ou à Québec, mais non, on a vraiment voulu ratisser très large, puis faire surtout comprendre aux gens que la culture, ça se vit quotidiennement, localement, et il faut la diffuser, la promouvoir, et c'est ça qu'on a fait depuis 29 ans.
Vous auriez pensé que ça aurait pris autant d'ampleur?
Honnêtement, non. Il y a 30 ans, 29 ans, c'était vraiment un défi parce qu'il fallait convaincre tout le monde, rassembler tout le monde. Puis les gens de théâtre, moi je viens du milieu de théâtre, mais les gens de théâtre, les gens de musique, d'architecture, se parlaient pas nécessairement tout le temps. Donc là, il fallait mettre tous ces gens ensemble en leur promettant que on allait avoir une espèce de grand parapluie de communication qui permettrait d'en parler des arts et de la culture, de rapprocher ça des gens, d'ouvrir les portes, de les inviter. Puis ça a été, je dirais, la première année un peu plus assez difficile, mais ça a pris son envol rapidement. Puis à chaque année, ça a grossi. Donc, on est fiers. Mais c'est beaucoup Louis Sicuro, c'est beaucoup ma femme maintenant. Là. On s'est rencontrés à l'occasion des Journées de la culture. D'ailleurs, on est devenu un couple à cause de ça. Donc,
quelle belle histoire!
Ça a changé notre vie. Oui, ça a construit notre vie, en fait. Oui.
Souvent, le nerf de la guerre, ça reste le financement. Ça a été difficile au début?
Oui, ça a été très difficile au début, mais on a eu quand même une poussée avec, à l'époque, il y avait eu le sommet sur l'économie et l'emploi avec M. Bouchard, et il n'y avait aucun projet sur la culture. Alors, nous, on est arrivé avec cette idée des Journées de la culture, démocratisation, tout ça, et on a eu un premier coup de pouce, je dirais, mais qui est resté pendant très longtemps, un petit coup de pouce, mais à un moment donné, tu as besoin de plus. Alors, ça n'a pas été simple à vendre, je dirais, mais on a eu de très bons commanditaires, on a eu des gens qui y croyaient, mais c'est un enjeu, et c'est encore un enjeu hein, pour les Journées de la culture, culture pour tous, bien que le gouvernement maintenant appuie davantage, mais il y a vraiment de grands besoins.
Donc, vous n'êtes pas touché par les coupures au moment où on se parle?
Je ne crois pas, parce que maintenant, moi, je suis à la retraite depuis 4 ans. C'est Michel Vallée qui est mon successeur. Et je pense que ça va, mais c'est pas, c'est très fragile. Ça reste un géant au pied d'argile, je dirais.
Ça a été repris également. Il y a des activités dans toutes les écoles du Québec et ça, c'est une grande victoire, non?
Ça, c'est fondamental parce que on peut parler de découvrabilité, de montrer de créer des plateformes pour qu'on voit qu'on produise de plus en plus de culture et d'art. Mais si ça se passe pas à l'école et dans les familles, il y a pas d'avenir. Et là, les Journées de la culture, c'est, à mon avis, probablement la plus grande activité qui touche le plus d'élèves, de jeunes, en français, parfois même dans des langues différentes, parce qu'une des chansons à l'école, c'est a été Elisapie qui chantait en Inuktitut. Donc, les gens ont appris à chanter ça, les enfants. Donc, pour moi, les Journées de la culture, d'être capable de ramener les familles dans des activités, les enfants dans les écoles, c'est la base, parce que c'est à partir de la base qu'on construit la culture. La culture, si on l'acquiert pas quand on est tout jeune, c'est plus difficile par la suite de l'intégrer. Donc, c'est vraiment fondamental, ça.
Souvent, les Journées de la culture permettent aux professeurs de créer ce fameux lien avec les enfants dès le début de l'année.
Bien, une chanson à l'école qu'on a créée il y a 10 ans, cette année, qui est faite par Saramé, ça, souvent, les enseignants nous disent « Je connais mieux mes élèves parce que pendant la rentrée scolaire, on a appris la chanson. » 3 semaines, les parents l'ont appris parce que les enfants la répètent à la maison puis ils la savent. Et ça leur permet, ou ça permet aux enfants de se connaître entre eux aussi. C'est magique. Une chanson à l'école, là, c'est magique. Et maintenant, il y a 300 000 enfants partout au Québec qui la chantent lors des Journées de la culture, le 26 septembre prochain. Moi, j'aimerais que toutes les écoles y participent.
C'est la 29e édition. L'an prochain, la 30e. De quoi vous êtes le plus fier au final?
Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est que les idées peuvent changer le monde. Puis les Journées de la culture, c'était une très grande idée. Il y avait plein de choses compliquées. Il fallait trouver l'argent, s'entendre avec tout le monde et tout ça. Mais c'était une grande idée. Puis les grandes idées, on en a besoin. C'est ça qui change le monde. C'est ça qui change la vie. Et la culture, fondamentalement, c'est de faire circuler les grandes idées. Donc, on est très fiers.
Vous, de votre côté?
Bien, moi, c'est de voir à quel point, justement, on a avancé. Comme disait Simon, on a eu des grands écueils, des obstacles, même le milieu de la culture, il ne le souhaitait pas, parce que c'était gratuit, par exemple, et tout ça. Mais on a continué. Et comme on dit souvent, bon, les chiens aboient, la caravane passe. On le fait. Et je vois avec comment c'est rendu aujourd'hui, depuis 4 ans où je suis plus là, mais ça continue, ça se déploie. Et ça me ravit, ça me touche. J'entendais pour la chanson à l'école, c'est un de mes projets préférés. Ça fait juste 10 ans, mais c'est porteur, c'est profond, ça s'étend partout. J'aimerais ça qu'à Saint-Jean-de-Mata, on puisse le faire aussi, une chanson à l'école. Ça va venir.
C'est un héritage dont vous pouvez être tous les deux très fiers. Merci.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Bon, voilà, c'était Simon Brault et Louise Sirucot. Simon Brault est le président du Festival de la Naudière et Louise Sirucot, elle est vice-présidente du Musée d'art de Joliette et conseillère municipale à Saint-Jean-de-Mata. Ils sont fondateurs des Journées de la culture.
La Naudière PM. Affaires municipales.
Ouais, Michel Arnois qui s'est beaucoup promené aujourd'hui. Il y a la Cour supérieure qui entendait aujourd'hui au Palais de justice de Montréal une demande de pourvoi en contrôle judiciaire qui a été déposée par une citoyenne de Sainte-Mélanie, Annie Guimond. Une séance d'ailleurs extraordinaire du conseil municipal de Sainte-Mélanie se tenait cet après-midi. Et Michel Arnois, tu y as assisté.
En fait, j'ai assisté à 2 séances en 2 jours, c'est-à-dire la séance d'hier où qui était le dépôt d'un projet de règlement qui voulait amender des règlements de zonage. Et c'était une consultation citoyenne auquel le maire était absent. C'est assez particulier qu'un maire soit absent d'une consulte quand il veut consulter ses citoyens, mais c'est comme ça. Il y avait ses raisons, il semble-t-il. Donc, on voulait, par ce projet, Claude, régir l'implantation de résidences de tourisme, qu'on appelle les fameux Airbnb, que vous connaissez bien. Mm-hmm. Beaucoup de municipalités, d'ailleurs, Claude, passent des lois, là, présentement, ou des règlements sur les Airbnb, sur les mini-maisons, entre autres, et le règlement, entre autres, à Sainte-Mélanie, concernant les mini-maisons. On parlait d'une superficie minimale qui était fixé à 30 mètres carrés, une superficie maximale de 50 mètres carrés. On disait dans la réglementation que le nombre maximal de mini-maisons était fixé à 5 maisons par lot. Bref, on a mis dans l'exercice de consultation d'hier une foule de règlements et une foule d'amendements un peu à l'image d'un projet omnibus.
Rapidement, Michel, parce que le temps presse, là, parle-nous justement de cette citoyenne de Sainte-Mélanie, Annie Guimond. Elle a déposé aujourd'hui en Cour supérieure au Palais de justice de Montréal une demande de pourvoi et cette demande a été acceptée.
Cette demande a été reçue favorablement par le juge. Elle voulait en fait stopper ce processus-là. Faut rappeler, Claude, qu'on est à 6 semaines des élections. et on trouvait ça un peu précipité de la part de l'administration municipale d'adopter à la course tous ces règlements-là. Donc, le juge, lui, a mis ça sur la glace. Il va prendre sa décision plus tard, même après les prochaines élections. Et ce sera au prochain conseil municipal à travailler avec la décision du juge qui va venir probablement vers la fin de l'année.
Bon, ben ça risque de faire jaser encore beaucoup. Et il y a bien une municipalité que tous les médias québécois auront sous la loupe là pendant la prochaine campagne municipale. Ben, c'est celle de Sainte-Mélanie. Merci, Michel Arnois.
Pas de problème.
Voilà, il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine Est pour Charles de Gaulle, ça devient plutôt dense à l'approche de l'avenue Marien et ça le demeure jusqu'à un petit peu passé. Là, le boulevard Henri-Bourasson traverse aisément vers la rive nord. Repentigny, 40 Est, ça se passe très bien. Le pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, secteur de la jonction avec la 440. Ouais, c'est quand même pas si mal malgré qu'on soit nombreux. Traversée facile vers l'île Saint-Jean et Terrebonne. Pont Sophie Masson, passablement dense en ce moment. Là, l'approche est assez difficile, je vous dirais, sur 500 mètres avant le boulevard des Mille-Îles. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. C'est plutôt dense, environ un kilomètre avant la montée des Pionniers pour la 40. Et en direction ouest, ça devient dense sur environ un kilomètre à l'approche de la montée du Mai. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Super Soir SNQL, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonnie-Soir-Chel, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonnie-Soir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonnie-Soir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Pendant la liquidation totale, prenez le volant d'un Kicks Play S 2025 en location 60 mois à partir de seulement 76 $ plus taxes par semaine, sans aucun comptant initial. Chez Joliette Nissan.
Du 19 au 21 septembre, c'est la vente de relocalisation du Jean Coutu de Rawdon. Venez découvrir la toute nouvelle succursale au 3432 rue Metcalfe. Pour l'occasion, profitez d'offres spéciales. Circulaires exclusives avec encore plus d'économies, cadeaux avec achat et événements beauté avec des marques de renom telles que Wattier, Caudalie, Clarins et plusieurs autres. Obtenez également 20 fois les points mois à l'achat de 100 $ ou plus sur presque tout et soyez parmi les 100 premiers clients le vendredi 19 septembre pour recevoir gratuitement une carte cadeau de 10 $. La vente de relocalisation du Jean Coutu à Rawdon, un événement à ne pas manquer.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fascite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Envie de petits moments en amoureux? Profitez de votre nouveau mobilier de salon de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gautier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croc, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Mata et Saint-Gabriel-de-Brandon.
h 32, Pierre Jubinville, encore du Brasse Camarade cet après-midi là du côté de Sainte-Mélanie.
On vient d'entendre Michel Arnois, mais on va entendre son reportage sur ce qui s'est passé cet après-midi. Cette séance du Conseil municipal spécial s'est déroulée sous haute tension.
C'est devant une trentaine de citoyennes et de citoyens que s'est tenue cet après-midi la séance extraordinaire du Conseil municipal de Sainte-Mélanie. À l'enjeu, l'adoption d'un amendement permettant d'ériger les résidences de tourisme, comme les Airbnb, les mini-maisons et d'autres éléments. Cependant, Annie Guimont, une citoyenne de Sainte-Mélanie, a pris un recours ce matin à la Cour supérieure pour éviter l'adoption du règlement et le juge lui a donné raison.
Oui, c'est un beau jugement favorable. Je suis vraiment contente qu'on ait reçu ce jugement ce matin. Pour moi, c'était une belle façon pour un juge de regarder la situation de Sainte-Mélanie sur le fond. Il reste encore beaucoup de doutes. C'est important d'aller au bout des choses. Ça permet de protéger nos citoyens puis de s'assurer que tout soit fait correctement un petit peu plus tard.
Pour l'instant, tout est sur la glace. Ce sera donc au prochain conseil municipal, suite aux élections du 2 novembre, à régler ces questions-là suite à la décision du juge. Ici Michel Arnois à Sainte-Mélanie pour CFNJ Nouvelles.
Et Pierre, enfin, des baisses des taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis.
D'abord, au Canada, le taux directeur est abaissé d'un quart de point. Il s'établit à 2,5 et il pourrait y avoir d'autres réductions d'ici la fin de l'année.
Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Betlem, garde un œil sur l'inflation qui continue de se situer sous les 2 %.
On va soutenir la croissance économique en s'assurant que l'inflation reste bien maîtrisée.
Mais les préoccupations de la Banque du Canada dans son analyse se concentrent aussi vers le marché de l'emploi. Jimmy Jean est économiste en chef au Mouvement Desjardins.
L'inquiétude transite de plus en plus vers la situation de l'emploi, la situation économique, parce qu'on vient de connaître une contraction comme masse importante du PIB, largement à cause des exportations.
Et les tarifs demeurent dans le paysage.
On s'inquiète aussi des effets dans les secteurs qui sont touchés par des tarifs sectoriels, l'aluminium, l'acier, le bois d'œuvre.
Selon l'économiste, il n'est pas exclu que d'autres baisses du taux directeur soient annoncées par la Banque du Canada d'ici la fin de l'année. Ici Denis Couture pour Cogeco Nouvelles.
Et aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine abaisse ses taux d'intérêt de référence. C'est un quart de point à 4 %. C'est la première fois en 9 mois, donc la première fois du mandat de Donald Trump, qui la réclamait vivement. Il réclamait également la tête du gouverneur.
Maintenant, Pierre, l'ancienne PDG de la SAQ refuse de blâmer son ancien vice-président.
Oui, Nathalie Tremblay, qui était là 12 ans, elle nous dit que M. Malenfant était vice-président à l'époque en charge du virage numérique et plusieurs affirment qu'il est en grande partie responsable du fiasco. Madame Tremblay a dit qu'elle a fait confiance à M. Malenfant jusqu'à ce qu'elle parte à la retraite il y a 2 ans.
Les fameuses informations qui devaient être transmises à la CAP, donc à nous, là, clairement, là, elle demande de retirer des documents et des notes suite à sa discussion avec la chef de cabinet de François Bonnardel.
Et puis la libérale Marois Risky, elle accuse Nathalie Tremblay d'avoir menti.
Oui, d'avoir sciemment induit des parlementaires en erreur. Marois Risky affirme que des informations ont été intentionnellement cachées à la commission.
Les fameuses informations qui devaient être transmises à la CAP, donc à nous, là, clairement, là, elle demande de retirer des documents et des notes suite à sa discussion avec la chef de cabinet de François Bonnardel.
Puis en terminant, Pierre, les sondages continuent d'être désastreux là, pour la CAQ.
Mais il n'ébranle pas François Legault, du moins en apparence. Premier ministre promet des résultats à court terme pour regagner la confiance des Québécois.
En chute libre dans les sondages, François Legault refuse de broncher.
Je pense que la perception va changer, la confiance va s'améliorer.
Son ministre des Transports, Jonathan Julien, était d'ailleurs aux premières loges quand la foule a hué son chef hier lors d'un match de baseball à Québec.
Mais moi, j'étais là hier, effectivement. Il y a eu cette expression-là. Mais on est allé dans les estrades, on a passé un très beau moment.
Mais le premier ministre affirme que le traitement choc dans la bureaucratie et la réduction de l'immigration temporaire annoncée la semaine dernière seront salutaires pour son gouvernement.
Donc, arriver avec des résultats dans les prochains mois.
Selon un sondage sondage Somme réalisé au lendemain du remaniement ministériel, 83% des résidents de la région de Québec affirment être insatisfaits du travail de François Legault, tandis que Léger donne 16% d'appui à la CAQ.
J'ai jamais prétendu ou pensé que seulement le remaniement viendrait changer la perception des Québécois.
Philippe-Rodrigue Comeau, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et Pierre Jubinville reste pas loin parce qu'on parle de crise du logement dans les prochaines minutes.
Bonne soirée.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM Immobilier.
Ouais, partout au Québec, les regroupements de comités de logement sont encore descendus dans la rue. Le message est clair, stopper la crise du logement actuel. Et Pierre Jubinville en parle avec Noémie Turbide, qui est coordonnatrice chez Action Logement Lanaudière.
Depuis que la CAQ est au pouvoir en 2018, le gouvernement a travaillé fort pour l'aggraver, la crise du logement. Donc là, on est rendu dans un état critique en 2025, même le dernier règlement qu'ils ont fait pour modifier le calcul des hausses de loyer était au profit des propriétaires, ce qui est aberrant dans la situation dans laquelle on est.
Noémie Turbide, comment on peut parvenir à régler ce problème-là? C'est un gros morceau.
Oui, mais quelque chose d'assez facile, d'assez simple à mettre en place, un registre des loyers. Ça fait au-dessus de 40 ans que les comités logements à travers le Québec le disent. Un registre des loyers obligatoire.
Ça fonctionnerait comment?
Que les propriétaires seraient obligés d'aller inscrire les montants des loyers. Donc, on saurait à ce moment-là combien il y a de logements dans les municipalités, puis combien sont les loyers. Puis à ce moment-là, les hausses qui arrivent entre deux locataires seraient beaucoup plus facilement décelables. Donc, ce qui veut dire... Oui.
Est-ce que c'est réaliste de penser à une solution à court et ou à moyen terme dans ce dossier-là? Ça semble difficile à atteindre.
Mais en fait, tous les gouvernements depuis à peu près 1994 ont abandonné le logement social au Québec, le fédéral et le provincial aussi, tout parti confondu. Donc, est-ce que c'est facile de sortir de cette crise-là qui a été faite depuis au moins 30 ans? Non, c'est pas facile. Par contre, c'est les mêmes revendications qu'on demande. Des logements sociaux. Donc, nous, on demande 50 000 logements sociaux en 5 ans. Puis si on continue, le chiffre va devoir augmenter.
Vous réclamez également un plafond dans les hausses des loyers?
Effectivement, un gel présentement des hausses de loyers. Le rejet du projet de règlement actuel, qui c'est un projet, c'est à l'étude, on demande le rejet. Ensuite, on demande aussi un véritable contrôle des loyers. Donc, axé sur la variation des dépenses d'exploitation. C'est comme s'ils incluaient deux fois l'inflation dans leur projet. Donc, ça, c'est une partie. Ensuite, on aimerait que les locataires, donc les propriétaires, aient l'obligation de s'adresser au tribunal administratif du logement pour justifier toute hausse supérieure au taux fixé. À chaque année, le TAL, le tribunal administratif du logement, donne un taux d'augmentation. Pour des hausses qui seraient supérieures à ce taux-là, on demanderait que la loi change pour les obliger, eux, à faire les procédures judiciaires pour prouver que c'est justifié. Ensuite, on a une création d'un registre public des loyers accessibles gratuitement. Donc ça c'est assez simple. Ensuite, un décret, un gel des loyers jusqu'à temps que la situation se stabilise à travers le Québec.
Est-ce que ce serait utopiste de penser à un recul du coût des loyers?
C'est pas ce que le regroupement des... on demande pas de recul. Entre vous, moi, je pense qu'il y en a qui sont en très grande souffrance. Mm-hmm. Ce qui est utopiste, en tout cas, c'est de penser que les choses vont s'arranger avec les mesures que la CAQ prenne. Ça, c'est complètement utopiste. On s'en va. Le mur, il est là pour beaucoup de monde. justement, on a vu récemment le taux de personnes qui sont mortes en situation d'itinérance en 2024. Mm-hmm. C'est aberrant. Donc, ce qui est utopiste, en fait, c'est que de croire qu'en donnant plus de privilèges aux propriétaires, la crise du logement va se résorber.
Vous êtes sur le point de déposer une pétition?
Oui, effectivement, elle a été conclue. On a amassé proche de 12 000, je vais retourner dans mes notes, mais oui, 12 500 personnes qui ont signé. Donc oui, on espère fortement que les ministres, là à l'occurrence Madame Sonia Bélanger, la nouvelle ministre de l'Habitation, va considérer la voix des locataires.
Est-ce qu'il y a une rencontre qui est réclamée de votre part avec Madame Bélanger?
Ben là, oui. En fait, c'est sûr qu'on va demander, là, elle vient d'arriver, on va l'interpeller, le regroupement des comités logements va sûrement aller l'interpeller. C'est les mêmes choses qu'on dit, hein?
Oui, oui, oui.
Ça ne change pas. Donc, eux, ils changent de ministre. Nous, notre discours est le même. Est-ce qu'ils vont l'entendre?
Bon, sur la crise du logement, les tarifs des loyers, on remarque parfois de l'exagération et des propriétaires qui ont de la difficulté à justifier une augmentation de loyer. Par exemple, ben, on a changé votre sonnette d'entrée. 35$, 50$ d'augmentation de loyer. Bon, en tout cas, c'était Noémie Turbide qui est coordonnatrice chez Action Logement Lanaudière. Dans un instant, on parle avec Pierre Paquette. Il sera question de la gauche qui s'enfonce dans un gouffre.
Devenez membre à vie au coût de 20$ à la coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm et obtenez 10% de rabais sur tous nos produits et services. La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm, 450-886-3763 et 450-839-3450. Avec tout ce qui se passe, je veux acheter local, mais je sais plus trop où chercher. On avait un bottin avant, mais là, ça fait longtemps.
Il existe toujours, tu le reçois encore par la poste et maintenant, il y a aussi le site web notreentourage.ca, un site clair, facile à utiliser avec seulement des entreprises locales. Ton prochain raccourci préféré pour acheter près de chez toi.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Berthierville Métro Plus, Dépanneur Formule 1, Confiserie Dautré, Pharmacie Caroline Lagacé, à Saint-Barthélemy, Dépanneur du Boulevard, à Saint-Cuthbert, Dépanneur du Village, Dépanneur Chondou, à Saint-Norbert, Dépanneur Arnois-Saint-Norbert, à Saint-Gabriel, Pharmacie Champoux, Gagnon, Brissette et Ouellette, Pharmacie Jean Coutu, Métro Saint-Gabriel, Dépanneur Proxy Extra Arnois, Dépanneur Proxy Extra Esso, Dollaratou, Marché Express Ultramar, à Mandeville, Dépanneur Le Rendez-vous, Le Marché Madame S. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à CFNJ.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre.
Oui, bonjour.
On revient sur ce sondage léger de ce matin en rappelant les chiffres. On donne 38 % au Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon, 27 % au Parti libéral de Pablo Rodriguez, la CAQ de François Legault est à 16 % Parti conservateur d'Éric Duhaime à 11 % et Québec solidaire qui ferme le bal avec 7 % Québec solidaire de Ruba Gazal, parce qu'il faut mentionner que le porte-parole masculin n'a pas encore été choisi chez Québec solidaire. On peut dire que la gauche s'enfonce dans un gouffre, Pierre.
Ben, la gauche de Québec solidaire, oui, parce qu'il y a de la gauche aussi au PQ. Il y en a un peu au Parti libéral. À la CAQ, j'en vois pas beaucoup. Mais c'est clair que pour Québec solidaire, ça va pas très bien. Puis ça fait déjà un bon bout de temps de ça. Puis je pense que le départ de Gabriel Nadeau-Dubois a fait juste accélérer les choses. On se rappelle qu'il est parti en mars dernier. Et donc, depuis ce temps-là, ben c'est une descente aux enfers pour Québec solidaire. Madame Gazal a fait de son mieux, mais le Québec solidaire étant ce qu'il est, ben, je pense qu'elle ne sera pas en mesure de corriger la situation, même avec un nouveau porte-parole masculin. D'ailleurs, un des signes que Québec solidaire est plus connecté avec la population québécoise, c'est que la course qui a débuté quand même le 15 août pour nommer un co-porte-parole masculin à Québec solidaire a suscité aucun intérêt jusqu'à présent. On n'entend pratiquement pas parler et le résultat devrait se faire au début novembre. Alors, moi, je pense que il y a de sérieuses réflexions à faire du côté de Québec solidaire. Malheureusement, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois a voulu provoquer cette réflexion, mais les militants se sont fait plaisir, un petit peu comme pour Mulcair, Thomas Mulcair avec le NPD. Ben, ils ont préféré se faire plaisir que de regarder ce que la population québécoise voulait.
Je vois plusieurs facteurs en cause dans cette chute de Québec solidaire, Pierre. Bon, un peu comme la coalition Avenir Québec, il y a des anciens partisans du PQ qui étaient chez Québec solidaire qui sont retournés au Parti québécois, d'autres qui étaient plus fédéralistes qui sont retournés probablement au Parti libéral de Pablo Rodriguez depuis que Rodriguez est chef, ce qui a dû faire mal évidemment à Québec solidaire. Mais ce que je vois aussi, c'est probablement que le parti a pris une tendance pas mal trop wokisme et wokiste, et le wokisme a écrasé carrément les idées de base probablement de Québec solidaire aussi et de ce que doit fondamentalement être la gauche.
Oui, parce que la gauche doit répondre aux intérêts de la majorité, c'est-à-dire les salariés, les travailleurs, et c'est pas dans le centre de leurs préoccupations. Eux, c'est la défense des groupes minoritaires, que ce soit au plan ethnique ou au plan sexuel, et ils sont totalement indifférents à la situation des Québécois francophones, qui est lui-même un groupe minoritaire en Amérique du Nord. Ben, il faut se le rappeler, là, on est une poignée de francophones entourés d'une mer d'anglophones, donc il me semble que les préoccupations de Québec solidaire devraient aussi, au moins, contenir cette dimension-là, c'est-à-dire répondre aux préoccupations des Québécois. Francophones en particulier, concernant la langue, concernant la laïcité, concernant un certain nombre de questions identitaires. Mais ça, ils se refusent complètement à ça. Ça serait comme piler sur leurs principes, semble-t-il, mais ça me semble un peu suicidaire comme position. D'ailleurs, tu mentionnais qu'il y a des gens qui ont passé du Québec solidaire au PQ, au Parti libéral. La candidate de Terrebonne, de Québec solidaire à la dernière élection partielle, qui s'est plaint du fait que le parti ne l'avait absolument pas soutenu.
Exact.
Personne n'était venu l'aider localement et elle est passée maintenant au Parti québécois. Alors, je pense que c'est une illustration assez forte de ce que tu disais.
Et évidemment, je regarde QC125, les projections, elles n'ont pas été mises à jour avec le nouveau sondage, mais ça devrait venir. Mais déjà, on voit qu'une circonscription comme Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui est détenue par Manon Massé, là, se fait chauffer par le Parti québécois. Et je ne sais pas si Manon Massé va se représenter, là, mais ça risque d'être difficile.
Ouais, mais je ne pense pas que Manon Massé va se représenter. Elle a des problèmes de santé. En tout cas, elle devrait se préoccuper d'abord de ses problèmes de santé. Mais oui, il y a plusieurs. Si on sort de Montréal, là, il va y avoir plusieurs circonscriptions qui vont passer au Parti québécois.
Non, mais c'est clairement fini. Là, je regarde Sherbrooke,
ouais.
Même. Là, Sherbrooke,
oui.
Le Québec solidaire est vraiment loin derrière le Parti québécois qui est en avance, ouais. Là, dans Sherbrooke. Mais
parce que Sherbrooke, il faut dire que c'était une situation très particulière. C'était Caroline Saint-Hilaire qui se présentait pour la CAQ, mm-hmm. L'ancienne du Bloc québécois.
Oui, c'est vrai.
Et on dirait que tous les souverainistes de la région de Sherbrooke s'étaient ligués derrière la candidate de Québec solidaire, qui était déjà députée,
oui.
pour l'empêcher de gagner. Et donc, c'est une situation très particulière. Mais là, je pense que ça va être généralisé à l'ensemble du Québec. Il y a peut-être quelques circonscriptions, Rosemont, Gouin, peut-être.
Rosemont, Vincent Marissal est menacé, même, dans Rosemont. Maurice Richard, Haroun Boisy, on oublie ça.
Ben, Haroun Boisy, là, justement, je voulais en parler. C'est peut-être lui qui a été la bougie d'allumage.
Oui.
Des problèmes de Québec solidaire.
Ou la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là, carrément.
Exactement. Ouais. Quand il est allé dire que ses collègues à l'Assemblée nationale, y compris ses propres collègues de Québec solidaire, faisaient preuve d'un racisme systémique, tout le monde, évidemment, a été scandalisé de ces propos-là. Il s'est jamais excusé véritablement.
Mm-hmm.
Alors ça, je pense, ça a été un peu la bougie d'allumage là, de du déclin de Québec solidaire, le départ évidemment de Gabriel Nadeau-Dubois et les positions qui changent pas. Encore une fois, c'est un parti militant comme tous les partis, mais c'est un parti militant où les militants se font d'abord plaisir sans avoir tellement de préoccupations de ce que les Québécois puis les Québécoises attendent d'eux là. Fait que moi, j'ai peur que, en fait, j'ai peur. Je pense qu'il se passe exactement la même chose avec le NPD. C'est-à-dire que c'est des partis qui sont en train de se marginaliser. D'autant plus que les solutions traditionnelles de gauche ont été reprises maintenant par à peu près tout le monde. Là. Tout le monde a dépensé, y compris la CAQ, y compris le Parti libéral du Canada. On se trouve avec des déficits qui sont pharaoniques, mais on n'a pas de solution à nos problèmes. Ça va prendre autre chose.
Mais il ne faut pas oublier que Québec solidaire a une très forte base de membres et de militants. Et ça, faut pas mettre ça de côté parce que ça peut nous réserver des surprises. Et quand même, deux circonscriptions qui sont toujours assurées, celle de Gouin et celle de Mercier. Merci, Pierre Paquette.
Merci, à lundi prochain.
Oui. Voilà, c'est le temps de saluer et de remercier tous les collègues qui ont collaboré à l'émission aujourd'hui. Je parle de Mathieu Bélanger, Michel Arnois, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette et François Morin, ainsi que Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Manquez pas dans un instant Nicolas Bellemare qui s'amène pour présenter son émission, le 5 à 7 trad à CFNJ. Et il sera aussi dans un tout petit moment avec Hugo Valiquette de la Troquelle. Dans la vie, dans la Naudière. Salut, à demain!